On va parler avec Dr. François Marquis, chef de l'unité des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Dr. Marquis, bonsoir.
Bonsoir.
Dr. Marquis, je me souviens, au printemps, là, vous aviez raconté... Non, pardon, pas au printemps. Quelque part à l'automne, là, quand on n'était pas encore dans la deuxième vague, quand on avait encore espoir que les cas montent pas trop et qu'on soit pas trop frappé, vous aviez été un des premiers à expliquer clairement que le problème, c'était pas le nombre de lits, c'était pas l'équipement de protection individuelle, c'était le personnel. Et aujourd'hui, ben, on a appris que les hôpitaux de Montréal vont sans doute devoir recevoir de l'aide d'employés du réseau de la santé qui ne sont pas de Montréal, qui sont de régions à l'extérieur. Ça vous a pas surpris du tout?
Non, absolument pas. Et pour toute personne qui travaille dans le système présentement, c'est ce qui est criant partout. Là, je connais pas un hôpital à Montréal qui a un surplus de personnel. Il y a des surplus relatifs entre certains hôpitaux, mais il n'y a personne qui est au-dessus des affaires. Là.
Moi, je parle à des gens qui travaillent dans le réseau, dans différents postes, Dr. Marquis, et évidemment, là, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui doivent se mettre en quarantaine, tout ça est vrai. Il y a aussi beaucoup de gens pour qui la pandémie, les problèmes de ressources humaines causés par la pandémie, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Si on avait mieux pris soin de nos employés avant, pensez-vous qu'on aurait les mêmes problèmes de personnel aujourd'hui?
Ben, tu sais, c'est certain hein, que quand on regarde dans le passé, c'est facile de dire on aurait donc dû. On va faire attention à ça, mais au-delà de ça, je pense que ça l'a exacerbé un problème qui était chronique. Et pour plusieurs personnes, vous avez raison que c'est la goutte qui a fait déborder le vase, qui a dit là, déjà qu'on m'en demandait énormément, puis là qu'on m'en demande d'en faire deux fois plus, comme si j'avais rien donné avant. C'est certain que ça l'a joué pour plusieurs personnes. Là.
OK. Donnez-moi un exemple concret là, de ce que les pénuries de personnel dans le réseau, en fait, pas dans le réseau, dans ce que vous voyez chaque jour à Maisonneuve-Rosemont, Dr. Marquis, là, donnez-moi un exemple concret.
Bien, j'ai des lits de soins intensifs qui sont parfaitement équipés, qui sont là, qui sont prêts à recevoir des patients, mais que si je mets des patients dedans, j'ai pas assez d'infirmières et j'ai pas assez d'inhalothérapeutes pour être capable de m'occuper sécuritairement de ces patients-là. La même situation se retrouve à l'étage. Il y a des lits qui ne sont pas ouverts parce qu'il manque de personnel pour s'occuper des patients de façon sécuritaire. Donc, on maintient des ratios sécuritaires. Et ça, vous multipliez ça comme réalité à des degrés différents dans tous les hôpitaux de Montréal.
Est-ce qu'on va arriver à un point où on va se dire, ben écoute, c'est peut-être pas sécuritaire de façon optimale, mais on va mettre quand même du personnel sur le lit, puis adviendra ce qu'adviendra.
Bien, ça, c'est une option. Fait qu'il y a essentiellement, il y a plusieurs options. Un, il y a la capacité, il faut aller mobiliser tout le personnel qui existe, qui n'est pas présentement dans le réseau public, dans les hôpitaux. Il faut aller optimiser ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, on peut commencer à dire, écoutez, il y a les soins de santé de qualité A1 là, qu'on donne habituellement, mais là, on est en pandémie, est-ce qu'on peut accepter de descendre en qualité B? Est-ce que c'est quelque chose qui est collectivement acceptable? Et ça nous permettrait d'ouvrir une série de lits supplémentaires. Mais il va falloir que tout le monde comprenne qu'il y a une petite baisse au niveau de la surveillance, il y a une petite baisse au niveau de la qualité des soins. Et la troisième option, c'est de se dire, surtout pour les lits de soins intensifs ou pour les lits qui sont plus critiques, de se dire, est-ce que la personne qui va dans ce lit-là est la bonne personne? On a parlé de triage, mais avant le triage, ma réalité et celle de beaucoup d'autres soins intensifs, c'est qu'il y a des gens qui arrivent, soit des patients, soit leur famille, avec des demandes complètement irréalistes qui nous obligent à investir des ressources, dédier des lits à ces personnes-là, le temps qu'on dénaille puis qu'ils finissent par comprendre que ça n'a pas de sens. Mais ça, s'il y en a un ou deux par hôpital, par soins intensifs, c'est rapidement une vingtaine de lits de soins intensifs de plus. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on faisait avant la pandémie, mais on doit collectivement se poser la question. Quelqu'un, par exemple, qui a un cancer métastatique au cerveau, qui est plein de métastases, est-ce qu'on l'amène aux soins intensifs juste parce que la famille veut qu'on l'amène aux soins intensifs, alors que tout le monde sait, malheureusement, que les carottes sont cuites? Est-ce qu'on transfère des patients qui sont en soins palliatifs à la maison, qu'on les met dans une ambulance en disant « faites tout pour mon père » et là, il arrive à l'urgence, il se fait intuber, les soins intensifs doivent gérer ça. Des fois, ça prend quelques jours d'émêler tout ça et c'est quelques jours où un lit est occupé par, malheureusement, quelqu'un qui ne va pas bénéficier, qui n'a aucune chance de bénéficier de ça. Donc, voici trois pistes sur lesquelles on peut travailler. avant d'en arriver à dire qu'il faut faire du triage avancé.
Des choix difficiles, assurément. Merci beaucoup, Dr Marquis.
Bien, merci. Bonne
journée. Salut, c'était Dr François Marquis, chef de l'unité des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. OK, on va maintenant parler avec Dr Carl Fournier, qui est chirurgien orthopédiste à l'hôpital Charles Lemoine. Dr Fournier, bonsoir.
Bonsoir. OK. En même temps, je suis présentement le chef du département de chirurgie à l'hôpital Charles Lemoine.
Chef de département de chirurgie à Charles Lemoine, c'est noté. Parfait. Docteur Fournier, dites-moi, quand on parle de qu'on ne fait que des chirurgies urgentes et le semi-urgent puis le non-urgent, c'est tassé, qu'est-ce qui est considéré urgent présentement dans votre pratique?
Ben, présentement, ce qui est considéré urgent, c'est les urgences actuelles qui arrivent à tous les jours. Mais même là, on a de la misère souvent à gérer ces urgences-là. Il manque tellement de lits dans l'hôpital. Il y a des matins qu'on commence, qu'il y a, d'ordinaire, on fait le tour des lits, à savoir, bon, qu'est-ce qu'il y a comme congé de prévu. Il y a des matins, il n'y a pas de congé de prévu. Tout est plein, ça fait qu'il n'y a pas de chirurgie qui va se passer. Là. Il va y avoir juste des chirurgies en chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire un patient qui va rentrer. Ça devient des chirurgies plus simples pour garder justement les choses actives puis au moins baisser ces listes d'attente-là. Parce qu'il y a d'autres cas. La semaine dernière, on a même annulé des chirurgies de cancer, des patients qui commencent à être hors limite de leur chirurgie du cancer parce qu'il n'y avait pas de lit dans l'hôpital pour les faire. La même chose qui est arrivée avec un de mes patients qui est en attente depuis presque un an pour se faire opérer d'une chirurgie dans le dos. C'est un jeune homme qui avait 49 ans, qui avait une sténospinale à 4 mm, qui avait de la misère à marcher. Il est rentré à l'hôpital en urgence parce qu'il y avait des incontinences au niveau urinaire et fécal. Puis je suis allé le voir, je dis, on va te faire une autre résonance magnétique. On a fait une autre résonance magnétique, il s'est empiré un peu, mais il bougeait encore les pieds. C'était au niveau de ce qu'on appelle le conus médulaire, là, c'est-à-dire le bas de sa moelle épinière. Je dis, écoute, il n'y a pas de lit dans l'hôpital, on va attendre d'avoir un lit, on va pouvoir t'opérer bientôt. Fait que je dis, demain matin, probablement qu'il va avoir un congé. Mais pendant la nuit, il est tombé en insuffisance, il est tombé en rétention urinaire, ça fait que là, il n'avait plus aucune capacité de contrôler ses sphincters, ça fait qu'on va... Je vais t'opérer, puis on va te garder à la salle de réveil jusqu'à ce qu'il y ait un lit. Ça fait qu'on est rendu à la limite dont on pousse les indications. En fait, pas les indications, mais on pousse les temps d'attente à la limite parce qu'on ne peut plus opérer les patients. J'ai des collègues neurochirurgiens qui me disent qu'ils ont des patients avec des cancers au cerveau qui ont de la misère à les opérer. Les patients commencent à avoir des engourdissements, des faiblesses à toute la moitié du corps. Ils n'ont pas encore de place pour les opérer. Ça fait qu'on est rendu là. Ça fait que l'hôpital est vraiment plein. J'entendais le docteur Marquis tantôt qui disait que oui, il y avait des lits de soins intensifs, McKinney Nursing. Nous, en fait, ce qu'on voulait suggérer, c'est que dans le reste du Québec, à d'autres places, là, en dehors de la couronne montréalaise ou montérégienne ou lavalloise, il doit y avoir d'autres hôpitaux qui sont moins affectés par le COVID. J'ai pas toutes les statistiques sur eux autres, mais c'est sûr que quand on sort à 50, 60, 70 km en dehors de Montréal, ça commence à être moins actif.
Oui.
Nous, on se demandait si on pouvait envoyer nos patients qui sont en attente de convalescence dans ces hôpitaux-là, vu qu'ils sont moins affectés, pour qu'on puisse continuer à remplir les missions des hôpitaux tertiaires et quaternaires, c'est-à-dire pas tous les hôpitaux du Québec qui font de la neurochirurgie, c'est pas tous les hôpitaux du Québec qui font de la chirurgie vasculaire ou de la chirurgie du cancer, de la chirurgie du cancer thoracique ou des chirurgies cardiaques comme dans d'autres hôpitaux. Chez nous, on fait de la chirurgie de la colonne avancée, c'est pas tous les hôpitaux du Québec qui font ça non plus, mais là, ces missions-là, on peut pas les remplir parce qu'on déborde. Les petites urgences, même, ils attendent 4, 5, 6 jours où on se dit, on sait pas quand est-ce qu'on va les faire.
Ce que vous dites, je veux pas vous mettre des mots dans la bouche, mais plutôt que d'importer des régions extérieures du personnel, peut-être qu'on devrait avoir des patients à l'extérieur?
Bien, il y a beaucoup de patients dans les hôpitaux actuellement qui sont en attente d'une place pour convalescence parce qu'ils sont plus très malades, mais ils sont trop malades pour s'en retourner chez eux, ils sont en perte d'autonomie. Il y a tout moyen qu'on les place dans des hôpitaux qui sont moins occupés par le COVID, qui n'ont pas de mission provinciale en cancérologie ou en chirurgie du cerveau pour dire, mais regardez, aidez-nous un peu pour qu'on puisse opérer au moins les patients qui sont à la veille d'avoir un cancer du cerveau qui les éclate dans la tête. C'est ne serait-ce que des places comme ça.
Trouvez-vous?
Ça n'a pas été regardé par le gouvernement. Ça permettrait de dire, ben écoutez, il y a des régions que je suis certain là, que c'est business as usual, comme on est là. Ce qui n'est pas normal pour nous autres dans la région du Montréal métropolitain, où on éclate, puis où on fait déjà. On ne fait pas du triage de COVID, de soins intensifs encore, mais les unités sont prêtes pour ça. Mais on fait du triage d'urgence actuellement. On dit, toi, tu n'es pas assez urgent, toi, tu es presque urgent, toi, tu vas attendre 24. Les chirurgies qui ne devraient pas attendre plus que 8 heures, bien souvent, ils attendent 24 heures avant de se faire là, dans les urgences.
Y a-t-il des gens qui vont mourir de ne pas avoir été opérés dans les délais?
Probablement. C'est difficile de prévoir, mais probablement. Probablement qu'il y en a qui vont... probablement que dans les chirurgies de cancer, surtout, il y a des patients que, je veux dire, on va avoir atteint le point de non-retour. Il y a des patients qui vont paralyser, en tout cas, parce que moi, ce que je connais dans mon domaine, parce qu'on va avoir atteint le point de non-retour, ça, c'est... On est sur le bord d'eux, là.
OK. Merci beaucoup, Dr Fournier.
Merci.